ne peut que se donner, se recevoir, se partager, mais en aucun cas elle ne se possède. Cette semaine, nous entraînons dans une réflexion profonde à la frontière entre philosophie, théologie et psychanalyse. Nous vous entraînons surtout à la découverte d'un penseur, le jésuite et psychanalyste Nas. Alain Perrottet est à la réalisation et Catherine Erard avec vous jusqu'à 23h.
À vue d'esprit.
Denis Vasse est connu pour avoir éclairé d'une façon originale, en partant de son travail de psychanalyste, des questions spirituelles, théologiques, philosophiques, fondamentales. Parmi elles, le rapport à la vie, à l'altérité, à la parole, à la chair également. Sa réflexion s'enracine dans des récits d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, qui n'arrivent pas à entrer dans la vie, qui refusent l'autre, le réel, qui s'imaginent que la vie ne leur a pas vraiment été donnée, qu'elle ne leur a été donnée que pour mieux être reprise plus tard, et que l'amour que soi-disant on leur porte n'est qu'une manière de les empêcher d'être eux-mêmes. Ils font écho à tout ce qui, en nous, refuse d'entrer dans la vie pleinement. C'est une écoute exigeante que nous vous invitons autour de thèmes tellement centraux que l'on ne peut que point y entrer. Des thèmes autour desquels nous tournerons, nous reviendrons durant toute cette semaine, comme face à un tableau qui progressivement se voit et qui communique au-delà des mots.
Je pense qu'il n'y a qu'une structure humaine. Nous ne la comprenons, nous ne la touchons que par le biais de la pathologie. D'une certaine manière, c'est pareil dans l'ordre de la vie spirituelle. La possibilité que nous avons de découvrir en nous la parole véritable, c'est-à-dire le fait que ça parle en nous, c'est quand même la découverte du péché. C'est cela même qui s'oppose à ce que nous puissions dire, parler, consentir à ce qui se révèle en nous. C'est cela même qui nous fait éprouver justement la force de ce qui se révèle, autrement dit la vie. Et tout homme naît parlant, c'est parce que nous sommes parlants que nous apprenons à parler. C'est parce que nous sommes constitués, j'allais dire intimement, dans nos chairs, par la parole, que nous apprenons à parler. Mais apprendre à parler, c'est justement découvrir ce que c'est que vivre, ce que c'est que la vie qui se révèle en nous.
Denis Vasse, selon vous, il y a vraiment une structure commune. Est-ce qu'à la base de ces structures, il y a justement un consentement qu'on donne ou qu'on ne donne pas à la vie qu'on a reçue et qu'on n'a pas demandé ?
Voilà, la vie qu'on a reçue et qu'on n'a pas demandé, c'est le langage du névrosé. et oui, c'est le langage de tous, d'une certaine manière. Dans l'ordre de la conscience, on pense comme ça. Mais vous voyez bien que c'est là un vrai problème qu'il faut bien entendre, c'est que la vie est ce qui se donne. Or, nous sommes vivants quand nous disons que nous n'avons pas demandé la vie. Autrement dit, nous pensons avec une force formidable que la vie ne nous a pas été donnée, qu'on ne l'a pas demandée dans l'acte même où nous sommes vivants. Et justement, le fait de non, nous y arrivons, c'est la manière de ne pas consentir, avant même la conscience de la parole, à la vie qui se donne. La vie ne peut que se donner.
Vous dites ce nom peut être dit avant l'accès à la parole, ça veut dire que ce nom peut être dit chez un très petit enfant, enfin...
Très petit. Il peut être pas dit, mais actué dans ses muscles même. Par exemple, l'anorexie, ça commence très tôt. C'est qu'il ou elle a dit non, c'est qu'il dit non de tout son être. C'est comme si il refusait, avec l'énergie même de lui qui sonne, qu'elle se donne. On va parler en ne pas parlant. Par exemple, les autistes, les gens qui ne peuvent pas et ne veulent pas parler, parce que les deux sont vrais, eh bien, vous voyez que vous mettez un autiste dans une société quelconque, ça fait un bruit formidable. Je veux dire, vous voyez bien qu'il y a, et non seulement un bruit, mais souvent ce sont des psychotiques et par conséquent des gens qui vont tenir une place extraordinaire. En général, ils montent sur les épaules et les cheveux de leur mère, etc. Donc il y a quelque chose qui, une parole qui ne se veut pas, qui ne se révèle pas. C'est-à-dire que toute vie se révèle. Et elle se révèle par les mouvements, par le corps qu'elle habite, mais aussi, si elle se révèle, au sens rigoureux du terme, c'est qu'elle parle. Comme l'a dit Lacan, ça parle. Donc, c'est ce « ça parle » qui devient le sujet parlant. Vous voyez bien que ne pas parler, c'est refuser de se révéler, c'est-à-dire c'est refuser d'être. Parce que il y a souvent peur de la vie, ou que la vie se présente dès tout petit, dès avant la naissance, et à la naissance en particulier, comme quelque chose dans quoi on ne peut pas entrer, qui fait peur. Et dans cette mesure-là, ne pas vivre, dire non à cette vie qui ne nous veut pas, c'est cela vivre pour celui qui est dans cette problématique-là.
Pour peut-être qu'on puisse avoir un visage sur ce que vous nous dites, j'ai publié récemment un livre qui s'appelle La Grande Menace, où vous parcourez les 2 ans de psychanalyse que vous avez vécu avec le petit Christian, je crois qu'il avait entre 4 et 6 ans, et qui justement, à un moment de la psychanalyse, va, avec ses mots à lui, parvenir à dire en fait que la vie, il l'a reçue, c'est certain, mais il l'a vécu comme un rejet plutôt, comme le fait d'être éjecté. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela?
C'est un petit garçon qui a 4 ans et demi quand il vient me voir. Je parle avec ses parents, je les interroge sur ce qui est arrivé. J'apprends un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de ce qu'on dit comme ça extérieurement, mais qui peuvent être vécues sans en avoir conscience par un enfant qui naît. C'est une femme dont elle-même raconte un certain nombre de circonstances gravissimes où, je crois que c'est son père, je me souviens plus très bien, mais son père qui tapait dans les ventres de sa mère au moment où elle est née. Et cet enfant, qui est le deuxième d'ailleurs, il vient après une petite fille, c'est un petit enfant qui ne parle pas chez lui, ou quand il parle, il attrape des colères, et en général des colères qui se lisent sous le lit de sa grande sœur, qui a pas tout à fait 2 ans de plus que lui. Voilà. Toutes les mères savent ce qu'est la colère d'un enfant. C'est quoi? C'est quelque chose qui se ferme à tout, avec une violence. Le monde entier ne peut rien contre un enfant qui dit non.
Pour reprendre une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, vous avez dit « ça parle en nous ». Ça parle, mais faut-il qu'on laisse parler ?
Non, je crois que de toute façon ça parle. Mais que c'est ça qui est refusé ou consenti. Nous sommes une parole vivante.
Quand vous dites sa part, il faut bien l'entendre au sens large du terme. C'est pas simplement des mots, mais c'est un regard, c'est un geste, une capacité relationnelle à des objets, des personnes.
Freud lui-même dira que à la place du ça, sera, viendra le je, le sujet. Le sa part, c'est une manière de parler, mais comme un acte qui ne dit rien, parce que le ça ne parle pas. Pourquoi ? Parce que si j'étais un ça qui parle, je vous dirais n'importe quoi. Je serais même dans une espèce de refus de vous considérer comme sujet et donc de vous adresser la parole. Qu'est-ce qui fait la difficulté de travailler avec un enfant psychotique ? C'est que vous pouvez lui raconter ce que vous voudrez, c'est comme si vous ne lui parliez pas. Quand je décris Christian, je dis que pendant 16 séances, il n'a pas ouvert la bouche, ou bien il était couché sur ses bras, sur la table, ou bien il émettait des mots de paix avec sa bouche. Donc, je n'avais plus qu'une ressource, désespérée, désespérante, c'est d'entendre que ça ne parlait pas et que c'est peut-être dans la mesure où j'entendais que son attitude inconsciente était que ça ne parle pas, qu'au moins ça signifiait entre lui et moi que ça ne parlait pas. Vous comprenez ? Parce que le bébé, il sait pas qu'il parle pas et il sait pas qu'il parle non plus. Et c'est pourquoi la première manifestation de quelqu'un pathologiquement qui ne veut pas entrer dans la vie de la parole, c'est justement de se taire. C'est ce qui encombre la bouderie dans nos familles.
Et vous dites dans ce refus de communiquer, d'être en relation, finalement c'est presque sa manière à lui, à l'enfant, de manifester son identité. Finalement, il est un non.
Il est une non-existence. C'est ce que dit François Zolto. Donc vous pouvez le solliciter, mais fais ceci, mais fais cela. Vous pouvez les dresser à parler, mais ça ne change rien. Moi, il m'est arrivé de dire à des petits, tu me tues. Parce que vous voyez bien que ne pas parler, c'est littéralement refuser l'altérité. C'est tuer l'autre. Et regardez comment une femme qui en veut, même si elle ne le sait pas encore, qui en veut à son mari, ou qui est complètement prise par justement une impossibilité où son mari est de lui parler, ou est capable de ne pas faire exister ce qu'il dit ou ce qu'il désire. Et que c'est la violence la plus grande de la femme.
Est-ce qu'il y a une vengeance là, une vengeance contre la vie ?
Une vengeance que j'ai appelée essentielle, qui est la vengeance de la vie, oui.
Je vous cite, vous dites qu'il y a une forme de vengeance contre cette vie, une vie qu'on va posséder pour soi-même, et puis finalement ce fantasme va devenir un roman de vie qu'on va prendre pour la vérité, qui est finalement un mensonge.
Oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que nous arrivons à dire que la vie ne nous a pas été donnée la même où nous refusons. C'est quoi ça ?
Si je prenais une image, c'est comme si on avait une source d'eau qui coule, on construit un barrage et on dit « Non, moi, chez moi, il n'y a pas d'eau. »
Avec la difficulté que vous objectivez, n'est-ce pas ? Tandis que c'est toute la question de la perversion humaine. C'est-à-dire, encore une fois, je reprends ce que j'ai dit, cette possibilité de croire, comme en un fantasme, de croire que la vie ne nous a pas été donnée, là même, nous la refusons. On ne peut pas mieux définir la perversion.
Si je vous ai bien compris, parce que là où nous la refusons, c'est bien qu'elle est donnée.
Exactement.
Vous dites, ce nom, il n'est pas premier.
Non. Il ne peut pas y avoir de nom sans oui. Il n'y a ni non, ni oui. Donc, nous sommes dans la source du langage, mais pas de langage qui engage en disant oui ou en disant non. Parler à quelqu'un, c'est lui dire oui ou non, c'est-à-dire s'engager dans la reconnaissance avec lui. C'est consentir à recevoir de lui et à lui donner quelque chose. C'est dire oui. Dire non, alors c'est comme ça que le langage devient complètement neutre et que toute notre époque moderne, avec la science du langage qu'elle a, fait que nous communiquons comme jamais encore nous avons communiqué et pourtant nous ne parlons plus.
Notre invité durant toute cette semaine est jésuite et psychanalyste. Il a publié cette année un livre étonnant qui retrace les 2 ans de psychanalyse d'un petit garçon, Christian, à travers ses dessins. Cela s'appelle La Grande Menace et c'est paru aux éditions du Seuil. Vous retrouverez cette référence et d'autres encore sur notre site internet www.racr.ch/esprit, esprit au singulier. Comme chaque soir, notre répondeur est également à votre disposition au 021 318 60 70. 021 318 60 70. Demain, nous continuerons à nous approcher de ce refus primordial de la vie, un refus qui rejoint d'une certaine manière ce que la tradition chrétienne a appelé le péché originel. À demain donc et très bonne nuit à vous.
Espace 2, Jean-Luc Rider.
Je vous propose d'écouter